de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Saviez-vous que Michèle Alliot-Marie, du temps où elle était ministre de la Défense, mettait un point d'honneur à ce qu'on lui donne du Madame le ministre ? L'anecdote remonte au gouvernement Raffarin et Villepin, entre 2002 et 2007. Je vous propose d'écouter l'émission « Tire ta langue », consacrée à la question du féminin dans la langue française. Une émission d'Antoine Perrault, qui recevait entre autres l'écrivaine Benoît de Groult et la grammairienne Nicole Chauvelska, le 27 mars 2001, sur France Culture.
Notre séance d'aujourd'hui est envouée à la célébration de la langue, dont nous partageons le souci avec tous les usagers du français dans le monde.
Alors avant Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve.
Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Françoise Camard.
À Montreuil, on dit ouais, il y a une courave. Ouais, c'est une courave, ouais.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Mais que fait donc ce mec, un micro dans la main? Mais que fait-il donc? Il ne peut plus l'arrêter. Mais ce n'est pas de sa faute, il s'exprime.
On ne naît pas femme, on le devient. De cette fameuse sentence inaugurale de Simone de Beauvoir, les mots mêmes témoignent. Le terme « femme » est apparu au Xe siècle. Il faudra quasiment un millénaire pour que le vocable s'accompagne d'une sorte d'énergie lexicale témoignant de l'éveil des consciences. Oyez plutôt, « féminisme » apparaît vers 1837. « Féminisation » vers 1845. Femme de lettres, vers 1872. En 1936, féminisant fait un tour de piste avec une acception biologique. On parle des gènes féminisants. 1960 marque un sommet de la conscientisation puisque naissent cette année-là femme-objet, forgé pour stigmatiser le machisme, et, sur le modèle de négritude, féminitude, ensemble des caractères, des manières de penser, de sentir, propres aux femmes. Voilà qui nous mène directement au documentaire de Simone Dweck sur la féminisation des mots et des noms de métiers. Tire ta langue suit le dossier depuis belle lurette, et jadis et naguère, à ce micro, Josette Redebove a déjà dit haut et fort son affection pour le terme pompière. Pour le dernier quart d'heure de l'émission, en guise de clin d'œil, je m'entretiendrai en duplex de Toulouse avec le professeur et poète Yves Le Pestipon, auteur d'un recueil d'une énigmatique finesse, très d'elle. Mais d'abord, à tout seigneur, le mot n'a pas de féminin, tout honneur, Philippe Barthelet et sa chronique.
Innovation charmeresse. Dans sa sagesse, le gouvernement de la République a prescrit que la parité des sexes se retrouverait dans le vocabulaire. Sagesse audacieuse, qui présume beaucoup de l'usage, lequel est un souverain encore plus capricieux que le suffrage universel. Sans doute peut-on l'éclairer, comme faisait Vaugelas, mais il est difficile de lui imposer ses lumières. N'importe, la difficulté est le stimulant des grandes politiques. Rendre au genre féminin les mots qu'il n'aurait jamais dû perdre, on ne peut guère que se réjouir de ce retour à l'évidence. N'est-elle l'occasion offerte, et trop belle, que l'on nous barbarise au nom de la loi ? La question, il est vrai, a quelques épines. En partant du plus facile, nous avons tout ce qui en « teur » fait comme en latin son féminin en « trice ». Producteur donne productrice, navigateur navigatrice, et jusqu'à facteur factrice, laquelle est reçue par l'usage, qui est vétilleux. De même, « auteur » devrait faire « autrice », et l'excellente Olympe de Gouges, qui connaissait sa langue, ne se faisait pas faute de l'employer. Les autrices de maintenant préfèrent se dire « auteur » à ce qu'il paraît. Gageons que l'usage n'en saura rien. Quant à docteur, la doctrice qu'attendraient les rigoureux n'a jamais existé, supplantée ab ovo par une doctoresse de très large diffusion. Cette forme en S a quelque chose de si remarquable que le français en est comme amoureux. Là où elle s'est conservée, dans la langue des prétoires par exemple, elle rayonne d'une autorité calme, d'une force splendide et d'un parfum de dame à la licorne. Et ce n'est pas la modeste vendeuse qui pourrait rivaliser avec l'impérieuse vendeuresse des tribunaux. De même la demandeuse, bien timide et bien importune, à côté de l'altière demanderesse qui a déjà parti gagner. Et que dire encore des chasseresses, vengeresses, enchanteresses ou charmeresses, lesquelles incomparablement plus redoutables que les charmeuses ordinaires. Monsieur de Montaigne parle savamment et adjectivement des immodérées et charmeresses blandisses de la volupté. On parla aussi jadis, et fort logiquement, de successoresse, ce qui vaut mieux que l'improbable successrice tombée naguère d'une grande bouche médiatique. De même, l'embarras des honorables parlementaires, qui ne veulent pas de rapporteuse comme féminin de rapporteur, peut aisément se dissiper. Il suffit de remployer l'ancien rapporteresse que l'on trouve chez la Boétie. Sans doute est-il toujours un peu humiliant de s'apercevoir que la lune, ou le féminin des mots, était découvert bien avant que nous puissions même y songer. L'avenir est quelquefois derrière nous, et l'occasion est trop belle de répondre aux vœux de Littré, dont nous fêtons ces temps-ci le deuxième centenaire, de remettre en usage de vieux mots bannis et de leur rendre justice, en nous épargnant du même coup autant de barbarismes d'innovation.
France Inter, 7 mars 1980.
Eh bien, c'est encore un sacré pan de la muraille du sexe fort qui vient de tomber. L'Académie française, le bastion des hommes, va donc enfin accueillir une femme, une première historique. C'est l'écrivain Marguerite Yourcenar, 77 ans, qui va donc faire son entrée chez les immortels.
Et lire parmi les éminentes, celle qui me ferait frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre. Mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la reine Christine.
Bernard Cerchilini, nous sommes ici à l'Institut National de la Langue Française, devant un ordinateur qui nous donne accès à une base textuelle du moyen français. Et dans cette base textuelle, on regarde des noms féminins. Le moyen français, donc, c'est aux alentours du 14e, 15e siècle. Et là, on constate que énormément de mots, de noms, notamment de noms de métiers, sont féminisés dans des formes qui, bien sûr, ne nous sont plus du tout familières. Et alors là, vous venez de faire une recherche, on est tombé sur le mot humeresse. Humeresse de vin. Tout un programme. Que dit ce texte? De qui est-il?
Nous cherchions le mot « sorcière », qui est un mot de la langue encore contemporaine. Nous sommes tombés sur cet extrait d'une farce à trois personnages où on traite une femme de « sorcière, devin humoresse, chasseuse, estrangleresse de petits-enfants ». Bien, sorcière, c'est quelqu'un qui boit du vin, chasseuse, elle a les yeux chasseux, et en plus elle étrangle les petits-enfants. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on a des termes toujours constants, sorcière, chasseuse, mais une belle rime, humeresse, estrangleresse. Cela prouve que le suffixe « s » était très productif à cette époque, et aussi cela prouve plus généralement que les noms de métiers, les fonctions, étaient normalement et couramment féminisés dans l'ancienne langue. Alors, on a toute une série de termes qui sont restés d'ailleurs, les archiduchesses, les baronesses. On a dans des registres de la taille, qui sont des relevés d'imposition, on dirait actuellement, des métiers, aiguillère, archière, bouchère, tiens, nous le connaissons, boursière, boutonnière, servoisière, qui prépare la bière, chambrière, chandelière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a gardé quelques-uns, en oubliant qu'ils font système, un système très général. Nous avions une des professions féminines, j'ai dit, normalement féminisée. Autre exemple de l'ancienne langue, l'Église catholique a féminisé toutes les fonctions occupées par des femmes en son sein. Chanoinesse, papesse, ainsi de suite.
Et justement, avec ce suffixe « s », on voit aussi « administreresse ». Brodaresse, enchanteresse, on connaît, oui. Moinesse, retordesse de fil, etc. Alors là, nous, bien sûr, que nous aimons la poésie de ces mots, mais on a l'impression que à ce moment-là, il n'y avait pas de polémique sur la féminisation des mots. Les métiers étaient tout naturellement féminisés. C'était les métiers ou bien c'était les dames, les femmes de certains hommes de métier?
C'était normal dans la langue, c'est-à-dire que de même qu'un adjectif complétant un substantif féminin, masculin est au féminin, de même les fonctions, les métiers, tout ce qui est relatif aux femmes était féminisé. Aucune polémique, en effet. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas de grammairien avant le XVIe siècle travaillant sur le français. Ce qui s'est passé, c'est deux choses. Une chose propre à la langue, qui est que le suffixe « s » à partir de la Renaissance est devenu péjoratif, et de plus en plus péjoratif. La preuve, les ennemis de la féminisation disent « Ah, mais faut-il dire maintenant députesse, ministresse ?» Ils se moquent avec cela. Donc c'est un phénomène linguistique, il faut en tenir compte. Le mot, le suffixe « s » est ou était, la langue a évolué vite, péjoratif. L'autre phénomène n'est pas du tout linguistique ni grammatical, il est dans le recul du statut de la femme à partir du XVIIIe siècle. À cette époque, la femme n'est plus définie que par la fonction ou le métier de son mari. Et on voit par exemple à partir du XVIIIe siècle, toujours grâce à nos bases, apparaître le mot « présidente » chez Marivaux, mais comme l'épouse du président de tribunal. Il faut attendre, au fond, le monde contemporain pour que les femmes conquièrent des professions à nouveau, mais des professions nobles, et qu'elles demandent légitimement que ces professions soient féminisées. La bouchère, la charcutière était féminisée depuis toujours. C'est maintenant au tour de la ministre, car des femmes sont ministres et nous trouvons cela normal.
Herbager, herbagère. Impresario, impresario. La forme impresaria, également attestée, est recommandée en Suisse. Mineur, mineuse. Féminisation virtuelle, puisque les femmes n'ont pas le droit de descendre dans les puits. Moine, monial, dérivé de moni, ancienne forme de moine. Père abbé, mère abbesse. Poussin, poussine. Reporteur, reportrice. Sacristain, sacristine. Soprano, soprano. Soutier, soutière. Substitut, substitute. Toréador, toréador. Torero, torera. Tramino, traminote. Vendeur, vendeuse ou vendeuresse. Vétéran, vétérane.
Benoît de Groult, vous avez présidé pendant 2 ans, et ça c'était déjà il y a quelques années, la commission pour la féminisation des noms de métiers. C'était donc en 84, et c'était au moment où Yvette Roudy avait été nommée ministre des droits de la femme.
Oui. Elle a voulu tout naturellement se faire appeler Madame la ministre des droits de la femme. Elle a vu qu'on continuait à l'appeler Madame le ministre, et même souvent Monsieur le ministre, parce que ça va tout seul et que la formule sortait spontanément. Alors elle s'est demandé pourquoi elle n'arrivait pas à féminiser un nom qui finit par un nom muet, donc qui est déjà féminin dans sa forme. Ça s'appelle un nom épicène, mais c'est-à-dire qui va pour les deux genres très bien. Et alors on a réuni des enquêteurs, des linguistes, etc. pour saisir où était le nœud de ce problème et pourquoi ça ne se débloquait pas. Et on a découvert des choses dont on ne se rendait pas tellement compte. C'est que la langue d'abord n'est pas neutre, qu'elle reflète les préjugés d'une société et qu'au fond, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et on ne voulait pas nommer certaines femmes dans les positions de prestige, qui étaient le bastion des hommes. Parce que dans les positions subalternes, ou qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, là on se féminise, il n'y a jamais eu d'histoire. On est la concierge, la standardiste, l'ouvrière. Mais dès qu'on monte, c'est étonnant, dès qu'on monte dans l'échelle sociale, tout à coup, à partir d'un certain niveau, il y a le blocage. On est directrice d'école maternelle, à la rigueur, mais à la recherche nationale, on est Madame le directeur. Ce qui prouve que c'est dans les têtes qu'est le blocage et pas du tout dans les langues.
Alors, comment est-ce qu'elle a été accueillie, cette commission, en 84?
Très mal. Et pourtant, il y avait des noms prestigieux, des grammairiens. Il y avait Hans, le grammairien belge. des écrivains. Moi, je présidais la commission, je venais de publier Ainsi soit-elle il n'y a pas longtemps. J'étais donc plutôt acceptée comme féministe. Mais alors, comme chaque fois qu'il y a une avancée pour les femmes, c'est un déchaînement. Toutes les plaisanteries sont bonnes. Guy Bedos, avec qui j'ai été invitée chez Bernard Pivot pour parler de la féminisation. Bernard Pivot n'a pas pris un grammairien pour parler avec moi, mais un comique. Alors il m'a dit, et la femme du majordome, elle sera la majordame, et l'enseigne de vaisseau, ça sera l'enseignette de vaisselle. Tout était bon à faire des plaisanteries, et la grammaire était évacuée.
Parce et tout est désamorcé dans ces cas.
Oui, la grammaire, elle a un discours tout simple que les enfants apprennent en 11e, c'est-à-dire que les femmes utilisent l'article au féminin, et que les noms féminins se forment en général avec un « e » au bout. Enfin, il y a différentes règles de formation. Mais en tout cas, l'article au féminin. Eh bien, cette règle de grammaire élémentaire, tout à coup, suscitait un blocage terrible. Je vous dis, à partir d'un certain niveau dans les positions de prestige.
Il fera froid. Le vent de mer commence à souffler. Tu prendras des maladies que les médecins ne savent pas guérir. Une bronchique, une purésie pneumoniquée. Tu en mourras peut-être. Et c'est moi qui sera ton assassine. Moi que je t'aime tant fort. Au comble de la désolation, Bécassine se laissa glisser à terre et enfouissant sa tête dans son tablier, elle sanglota.
On imagine mal l'immense éclat de rire qui a accueilli notre commission et la violence quelquefois des critiques.
C'était en 84 tout ça?
Oui, c'était en 84 quand la commission s'est créée. J'en cite quelques-unes. Comment des précieuses ridicules allaient papoter sur notre belle langue française autour d'une tasse de thé? Bruno Frappa dans Le Monde, qui est un homme qui n'a pas habitué les gens comme ça à la dérision, à la moquerie, c'est un journaliste sérieux. Nous ne pouvions que papoter et non pas parler. Et je me souviens, en revenant du prix Fémina, puisque je suis du jury Fémina, c'était Joseph Pasteur à la télévision, m'a dit « Alors, les dames du jury ont bien papoté. Est-ce qu'on dirait aux jurés des Goncourt, vous avez bien papoté ?» C'est fou, il y a des adjectifs comme ça. Une autre critique, la première femme qui sera élue cheftaine de l'État aura une septennate pour tenir les engagaisons de sa programmature. C'est incroyable.
Et ça, c'était dans quel journal?
Je ne sais pas. Chacun y est allé de son complet, même Monsieur Météo dans Libération. Gillot Pétri écrivait « Délirium épais ». Benoît de Groulx a peut-être gagné sa croisade pour devenir écrivaine, mais je pose la question, quel est le masculin de l'expression « enculer les mouches à merde » ? Et faudra-t-il que je dise désormais « il fera belle » sur les Alpes et les Pyrénées ? Parce que les grammairiens ont toujours passé pour des enculeurs de mouches, alors nous étions des enculeuses de mouches à merde. On est donc pire que les grammairiens. Le Figaro Magazine saluait notre commission de futilité publique, qui entendait enjuponner le vocabulaire. Même ça monte jusqu'au grand philosophe dans l'Observateur. Plaignons cette pauvre Madame Groulx et ses fantasmes, écrivait Georges Dumézil dans un article du Nouvel Obs. Ces dames qui s'attaquent au vocabulaire ont une profonde méconnaissance des langues indo-européennes. Vont-elles nous obliger à dire Madame Mitterrand ou Madame Fabia? Au secours, voilà la clitocratie, titrait Jean Dutour dans son billet en première page de France Soir. Comme si ça a un rapport quelconque avec le clitoris. Et comme s'il fallait savoir l'indo-européen, quelques-uns d'entre nous la savaient dans la commission d'ailleurs, pour dire l'avocate ou la greffière. C'est extraordinaire. En plus, nous étions toutes des linguistes, j'ai fait une licence de latin grec philologie. Je ne suis pas nulle, j'ai le droit de papoter grammaire.
Dimanche, toute la France va voter. Avant-guerre, beaucoup d'encre et de salive coulaient à cette occasion. Mais cette année, il en coule au moins autant, sinon plus, car cette année, les femmes vont voter. Comment vont-elles voter? D'ailleurs, voteront-elles? Et pourquoi ne voteraient-elles pas? Dans quel sens vont-elles voter? Autant de questions et bien d'autres que se pose chacun. Et les femmes les toutes premières, je crois.
25 avril 1945, Radiodiffusion française.
Je me trouve actuellement au boulevard Arago. Il est 12h30 et je vais chercher, ma victime.
Dites-moi, mademoiselle, vous avez reçu votre carte d'électrice?
Non, pas encore, monsieur.
Pas encore? Oh, ben, espérons que vous allez recevoir. Nous sommes à quelques jours du vote, mais enfin, nous avons encore le temps. Et dans quel sens allez-vous l'employer, cette carte?
À dire vrai, je suis assez embarrassée.
Pourquoi?
Parce que je n'ai guère d'éducation politique. Je n'ai guère reçu l'éducation politique.
Et vous le déplorez?
Oui, sincèrement.
Mais néanmoins, vous pensez que la femme a sa place dans la vie politique du pays?
Ah oui.
Et par conséquent qu'elle doit voter?
Ah oui, vraiment.
Et ça, aussi bien sur le plan de la femme célibataire que sur le plan de la femme mariée?
Ah oui, certainement.
Sur les deux?
Les deux.
Vous ne pensez pas que sur le plan politique, la femme peut représenter le mari peut représenter la femme?
Non, non, je ne pense pas.
Vous pensez que les deux peuvent avoir une opinion différente?
Oui. Et la femme a le droit de l'exprimer.
Et que la femme a le droit de l'exprimer. En conséquence, vous réclamez, si je comprends bien, une éducation politique?
Ah oui.
Eh bien, espérons qu'on vous la donnera très prochainement.
J'espère, monsieur.
Merci beaucoup.
Si je retourne à l'histoire, qu'est-ce qui fait qu'on ait aussi laissé tomber certains mots comme ça? Bon, vous avez parlé de la... On utilise le mot, les terminaisons, les suffixes S pour se moquer, par exemple, aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a laissé comme ça tomber...
C'est un phénomène plus général. Cette langue des 14e et 15e siècles, sur laquelle nous travaillons beaucoup au laboratoire, est une langue qui crée énormément de mots, qui utilise beaucoup de suffixes. Donc la féminisation est prise au jeu de cette langue, que l'on va encore avoir chez Rabelais. Donc on a une, de toute façon, comme nous disons entre nous, une néologie foisonnante, qui a donc pour conséquence une néologie de féminisation foisonnante. Malherbe est venu, et ça n'a pas été quelque chose de tout à fait réussi. Malherbe a coupé tout cela, à partir du XVIIe siècle, on a un recul de cette foison néologique, les femmes en ont pâti pour les raisons que j'ai dites. Suffixe ex péjoratif, moins de suffixation, recul du statut. Et on voit très bien dans l'histoire de la langue comment cette courbe devient descendante à partir du XVIIIe siècle.
Nicole Cholevka.
Oui, c'est un problème extrêmement complexe et extrêmement diffus parce que il y a plusieurs points que ça soulève. Déjà, il y a le fait que les gens sont farouchement attachés à un type de prise de position et qu'ils n'aiment pas que ça évolue. Il y a aussi le fait que les femmes, en accédant à des métiers d'hommes, veulent accéder aux termes que ça représente au masculin. Et elles se considéreraient carrément déconsidérées si on disait d'elles qu'elles sont directrices et non pas directeurs.
Vous savez, c'est un peu la querelle des anciens et des modernes. Les anciens sont pour les formes traditionnelles, c'est-à-dire qu'ils ne remontent pas au Moyen-Âge et au XVIe. On trouve dans Boileau la peintre, enfin, on féminisait sans état d'âme. Alors qu'aujourd'hui, l'invasion, comme on dit, des femmes dans des métiers de prestige, ça donne une réaction de défense aux hommes qui sont au poste, qui sont dans les fauteuils. Et c'est là que ça résiste. Ça ne résistait pas au XVIIIe siècle. Et depuis 50 ans, la montée des femmes fait peur. Alors, on s'est aperçu que les anciens s'accrochaient, y compris cette vieille dame qu'est l'Académie française, qui est la gardienne de la langue. Elle n'est pas le gardien, elle est la gardienne, pourtant, de la langue. Et alors, il s'est passé un phénomène, j'ai bien aimé le terme, une espèce de procédé très rare dans l'évolution de la langue, dit un grammairien, c'est que les 8 femmes qui sont entrées au gouvernement en 97, ont tout à coup revendiqué de changer leur titre, en fait, et de devenir Madame la ministre, Madame la garde des Sceaux, Madame la secrétaire d'État. Et ça a été un choc dans l'opinion. Et c'est très rare que la langue n'avance pas tout doucement, que les usages changent tout doucement. Là, il y a eu un choc. Elles ont annoncé à la télévision qu'elles étaient des femmes, visiblement, et qu'on mettrait l'article au féminin. Heureusement, le mot n'était pas à changer. Garde, c'est masculin ou féminin. Ministre, c'est masculin ou féminin. Secrétaire se termine par un E. Finalement, ce n'était pas une révolution linguistique, mais c'était très important parce qu'elles étaient à un très haut niveau. La pauvre Edith Cresson, quand elle a été nommée première ministre, elle n'a pas osé le faire. Elle n'était pas très féministe à l'époque. De toute façon, on lui tombait dessus de tous les côtés. Est-ce que ça aurait été pire qu'elle se dise première ministre? Et on a manqué, au fond, l'accession à un terme qui va sûrement se répandre de plus en plus, parce qu'on va avoir des premières ministres maintenant, avec la parité. Et malheureusement, les femmes prestigieuses n'ont pas toujours osé faire des vagues et faire scandale. Simone Veil était présidente du Parlement européen. On a été la voir, comme en tant que présidente de la commission de féminisation, je suis allée la voir. Elle m'a dit « Non, ça m'est complètement égal qu'on dise Madame le Président. L'important, c'est d'être dans le poste. Ça n'est pas tel nom ou tel nom. » Je crois qu'elle ne s'est pas rendue compte de l'importance des mots et qu'il faut être à l'aise dans les appellations comme on est à l'aise dans une fonction. Ça va ensemble. Quand il faut dire Madame le Ministre, on ne sait plus s'il faut mettre l'adjectif au masculin ou au féminin. Et puis on entend des phrases aberrantes à la radio. On entendait... le ministre vient d'entrer en maternité. Il s'agissait de Ségolène Royal, qui exigeait pourtant d'être la ministre de l'Environnement. Mais il y avait cette réticence à cette chose toute simple qu'est un article féminin. Ça montre à quel point c'était viscéral, oui, l'opposition.
Ça a toujours été un enjeu symbolique, au fond, ça.
Exactement. Un enjeu symbolique. Et l'Académie, malheureusement, a encore du poids en France. Et elle influence beaucoup de gens qui n'osent pas aller contre ces décrets. Et malheureusement, Maurice Druon, qui n'était pas du tout un grammairien, mais qu'on a écouté comme s'il devait dire le vrai et le faux, a obligé Madame Carrère-Dancos à devenir Madame le secrétaire perpétuel. Il ne l'a nommée à ce poste qu'à condition qu'elle ne fasse pas de vagues, elle non plus. Et Marguerite Yourcenar, à qui ce problème était assez indifférent, s'est laissée traiter de Madame l'académicien dans son discours d'ouverture. C'est terrible, et quand on a annoncé sa mort, c'était dans Le Monde, notre cher confrère Marguerite Yourcenar, alors que consoeur est un mot qui existe. Donc l'Académie a fait aussi un blocage dans la société qui influence tous les gens d'influence, tous ceux qui ont un peu peur justement de choquer.
Aérodynamicien, aérodynamicienne. Agrafeur, agrafeuse. Asphalteur, asphalteuse. Bonbonneur, bonbonneuse. Boyaudier, boyaudière, cadreur, cadreuse, maire, mairesse, cafetier, cafetière, chlorier, chlorière, compositeur, compositrice, composteur, composteuse, contremaître, contremaîtresse, croupier, croupière, débardeur, débardeuse, décapeur, décapeuse, détaillant, détaillante, diacre, diaconesse, drapier, drapière, éboueur, éboueuse, échafaudeur, échafaudeuse, facteur, factrice. Ils tiennent leur discours devant moi, un discours avec lequel je ne suis pas d'accord. Et je suis le larbin, la larbine, la prolo à qui on ne demande pas son avis. La Dame au Bidule, 1976, Victoria Teram.
En fait, lorsqu'on regarde la liste des mots qu'on féminise avec certaines difficultés, ça se limite vraiment à une toute petite liste sur lesquelles, précisément, les gens reviennent constamment pour étayer leur contre-argumentation. Mais c'est évidemment pas sur cette liste-là qu'il faut se focaliser. Et dans la majorité des cas, morphologiquement, féminiser un mot est pratiquement toujours possible sans aucun problème.
Alors de quels mots s'agit-il, ces mots qui résistent grammaticalement?
Alors, il y a des mots de différents types, essentiellement les mots en « heure », par exemple « docteur »,« recteur », c'est-à-dire que les règles ne sont pas fixes ni définitives pour chaque mot. Et c'est particulièrement révélateur, je trouve, en ce moment, avec le suffixe « euse », qui est très souvent donné en féminin du masculin « heure », même quand les dictionnaires proposent autre chose en ce moment, ou même quand ils essayent de proposer autre chose. Et plusieurs fois déjà, dans de multiples exemples, un mot masculin en heure, par exemple auteur, pour lequel on a préconisé plusieurs choses, quand je dis on, c'est pas nous, c'est les autres dictionnaires et nous, entre autres, nous avons préconisé autrice, par exemple, le petit Robert préconise autrice, auteur, comme les Québécois. Et il se trouve que nous avons de plus en plus d'attestations de auteuse, y compris dans la bouche de Ségolène Royal, qui l'emploie régulièrement, parce que ça lui semble naturel. Et je crois que naturellement, les gens ont tendance à développer certains suffixes au féminin, parce que ça leur semble naturel et parce qu'ils ont tendance à généraliser en fonction d'un point de départ. Et c'est le cas pour ce cas-là en particulier.
Sculpteur, par exemple.
Alors, sculpteur, c'est un cas très intéressant dans la mesure où, si on veut se rapporter à l'étymologie, on peut le dire d'une façon. Si l'on veut se rapporter au fait qu'il y a un verbe sculpter, on peut le dire d'une autre façon. Il y a aussi une troisième attestation, ce qui fait qu'on a sculpteur, EUR, sculpteur, sculpteuse, sculptrice. Et bon, il n'y a pas de bonne et de mauvaise raison, parce qu'on ne peut pas être normatif et décider qu'il faudra dire tel mot ou tel mot. Et à la longue...
un certain usage se fera et je pense qu'il y aura une forme qui prévaudra un peu sur les autres.
Tais-toi et sors, avant que je te fasse avaler ton pot de moutarde. Nonasse, curette, matrone, scalpeuse, exciseuse, gauchiste, bourgeoise. C'est ça, n'oublie pas ton disque. Ils sont près de leurs sous, ces gens-là. Souteneuse de flics, pouvoir déguisé, catin de droite, ligue de vertu, minable. Staboulkash, 1981. Victoria Teram.
Donc entre 84 et 86, vous avez travaillé alors à la recherche des féminins, des noms de métiers.
Oui, et alors nous avions dans notre commission Madame Ray de Bove, qui est une des rédactrices en chef du Robert. Donc c'était très important parce que, au fond, la victoire, c'est de faire entrer les mots dans les dictionnaires. À partir de ce moment-là, un professeur n'a plus le droit de mettre dans la marge d'un devoir d'élève. Sculptrice, ça n'existe pas. Si c'est dans le dictionnaire, on est obligé de passer à ce nouveau féminin. On se réunissait une fois par mois, il y avait des enquêteurs qui cherchaient quelle était la catégorie qui acceptait le mieux les féminins. On s'apercevait que les enfants ont tendance à féminiser puisqu'ils apprennent dans la grammaire que le féminin est pour les femmes. Donc il y a eu des enquêtes.
Donc les enfants,
personnes qui
après...
sont dans des hiérarchies, c'est difficile parce qu'ils se font mal voir. Il y avait une jeune femme qui était au ministère du Travail et qui était une linguiste, Michèle Coquillat, qui était assistante de... chef de cabinet, je crois d'ailleurs, de Yvette Roudy, et qui est passée au ministère du Travail. Elle a été nommée inspectrice du travail. Et quand elle se disait Madame l'inspectrice au ministère, on lui disait « Oh, fais pas ta MLF ». Elle était, à ce moment-là, on la traitait d'emmerdeuse ou d'emmerderesse, parce que là, il y a deux féminins, c'est Valérie qui les cite d'ailleurs.
Oui. Avec le S, oui, S qui est plutôt péjoratif.
Emmerdeuse, qui est une forme de féminin, et emmerdeuse, ça va de soi. Et emmerdante, ça en fait même trois. Mais inspectrice du travail, ça choquait tout le monde. Et bien, au bout de 3 mois, elle a renoncé parce qu'à chaque fois, c'était les moqueries. « Oh, tu vas pas faire ta féministe, la ramène pas, laisse-nous tranquille. » Il faut aller se heurter comme ça dans sa hiérarchie et ça risque de vous bloquer dans votre avancement. Alors, dans ces catégories-là, on a un peu peur. Mais quelqu'un comme écrivaine est indépendante, elle dépend de personne, donc je n'hésite pas à dire, sauf dans ma déclaration d'impôt.
Ah.
Je n'écris pas, je ne mets pas écrivaine parce que j'ai peur que l'inspectrice des impôts dise « Ah, encore une féministe à la noix, qu'est-ce que c'est que cette formule ?» et qu'elle soit encore plus sévère dans...
Alors vous aussi, finalement, vous cédez finalement à cette espèce
face aux impôts,
de poids social.
J'ai peur que ça me coûte cher, voilà. Mais dans tous les autres cas, je me dis écrivaine, oui.
Le droit des femmes n'est plus... Je le proclame, ce que jadis ils furent, ces dames se sont battues mais l'ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Aujourd'hui le monde a changé, tout passe et casse, la femme dans la société a pris sa place, pilote, écrivain, PDG et puis j'en passe. Comme finir à l'Élysée un jour de grâce. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus.
Je le proclame
ce que jadis il fut. Ces dames se sont battues et ont tué le droit des femmes et ne le lâcheront plus.
Dans un livre qui commence maintenant à dater, donc 89, Marina Jegelo se lamentait du fait que le mot gourmet n'avait pas de féminin. Et elle insistait sur le fait que les hommes avaient le droit d'être gourmets, mais que les femmes n'avaient le droit que d'être gourmandes. Or, maintenant, les exemples fleurissent tout à fait dans la littérature et les femmes ont aussi le droit d'être gourmettes.
Alors, cette histoire de gourmette, en fait, aussi soulève une autre question, c'est celle des homonymies. Parce que, est-ce que ça n'a pas été ça un des arguments de l'antiféminisation que de dire, oui, mais alors, on va confondre là des personnes et puis des objets?
L'homonymie, c'est vraiment la tarte à la crème de la contre-argumentation. Quand vous avez un joli petit secrétaire, vous parlez de quoi? Pourquoi est-ce que ce serait seulement au féminin que l'homonymie est gênante? Est-ce qu'on se pose la question de savoir si, quand il vous défend, un avocat est habillé en vert ou en noir?
L'homonymie, elle est présente dans tous les domaines et depuis tous les temps. C'est absolument pas un problème lié à la féminisation.
C'est un argument qui ne tient pas, dans mesure où l'homonymie est présente dans la langue, dans toutes les langues. Et heureusement, sinon on ne pourrait pas écrire de littérature ou de poésie. Et, comme disait Madame Cholewka, pourquoi faudrait-il que seuls les termes féminins soient liés à un seul sens? Après tout, tailleur, avocat sont ambigus. Et cuisinière l'est depuis longtemps. La cuisinière, c'est la femme qui a une fonction et c'est l'instrument. Donc en fait, c'est un mauvais argument dans la mesure où on imaginerait une langue parfaite, une langue des calculs, réservée au terme féminin. L'homonymie, elle est dans la langue, on s'en accommode et on parle depuis des millions d'années avec cela.
Alors, Bernard Cerchellini, il y a aussi une autre question quant à cette féminisation des mots ou à garder le masculin. Il y a des mots que vous appelez, je crois, des mots génériques, au fond, qui définissent une fonction, mais qui définissent les cadres d'une fonction. Et à ce moment-là, on les emploie au masculin.
L'intérêt de ce mouvement dans la langue en ce moment, c'est qu'il attire notre attention sur un emploi sémantique qui était présent depuis tout le temps, mais on n'en avait plus conscience. C'est ce que nous appelons dans notre jargon le générique. Il faut pouvoir viser une fonction en général, prise comme notion. Un exemple célèbre, quand quelqu'un a dit « un ministre », ça ferme sa gueule ou ça démissionne. C'est la notion de ministre qui est visée. Donc, dans ce cas-là, peu importe que ce ministre ait été un homme ou une femme, c'est la notion. De même, quand on rédige...
Donc en fait, là, on a choisi une sorte de neutre générique.
C'est le neutre. Mmh. Et le générique est traduit, en l'occurrence dans la phrase, par le « ça », qui est une marque du générique en français, et le masculin. Car c'est le masculin qui exprime le générique. Dès lors, quand on rédige un texte de loi ou de réglementation, un décret ou un arrêté, et que l'on dit « le ministre de la Culture est chargé de », ce texte sera valable pendant de nombreuses années et... quel que soit le sexe de la personne. On écrit donc la langue juridique au générique, au masculin. Mais quand on vise une personne particulière, par exemple Madame Catherine Tasca, elle est une personne singulière. On n'utilise pas le générique masculin. On dit donc, elle est la ministre de la Culture. Pour prendre un exemple un peu délicat, mais qui montre la richesse de la langue. Donc, les puristes opposés à la féminisation écrasent cette nuance. On peut dire, par exemple, dans cet hôpital, les fonctions de chirurgien, c'est du générique, sont actuellement occupées par une chirurgienne. La féminisation enrichit la langue et la fait briller de tous ses feux sémantiques.
Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle résistance à la féminisation des mots?
D'abord, cette résistance n'est pas grammaticale, elle est sociale. Bien. Deuxièmement, il y a dans la langue française, un purisme dont il faut se déprendre. Il empêche que l'on fasse évoluer et développer la langue, après tout, préférons Rabelais à Malherbe, qui fait que quand un mot nouveau est créé, ce mot inquiète ou fait sourire. Les mêmes qui luttent contre, disent-ils, la trop grande présence de mots anglais en français, on rit du mot baladeur, qui venait très adroitement remplacer Walkman. Il y a donc une difficulté à créer des mots, alors que nous en avons besoin, pour en effet faire pièce à l'anglais, ou pour exprimer la revendication légitime des femmes. Mais plus encore, nos représentations sont figées. Pour prendre un exemple, le quotidien Le Figaro, qui publie beaucoup d'articles violemment opposés à la féminisation, est pratiquement entièrement féminisé. C'est-à-dire que les représentations sont en décalage complet. Elles sont puristes. On écrit donc dans le Figaro un article pour dire « Non, il ne faut pas féminiser ». Et puis, ouvrez ce journal, on y trouve sénatrice, députée. Nous avons même trouvé bodybuildeuse dans le Figaro. Et bien, la femme, pendant plusieurs siècles, n'a été que l'épouse de son mari. Prenez ambassadrice, c'est intéressant. Nous voyons les deux sens en ce moment. Certains utilisent encore ambassadrice pour dire l'épouse de l'ambassadeur. Mais dans quelques années, ambassadrice n'aura plus qu'un sens. Cela désignera la femme qui occupe les fonctions d'ambassadeur. Il y a une ambiguïté parce que les changements linguistiques ne sont pas comme des blocs de granit qui s'effondrent. On a les deux. Mais je pense que bientôt, ambassadrice au sens d'épouse d'ambassadeur ne se dira plus. Il se trouve que je voyage beaucoup et quand je suis reçu par un ambassadeur et par son épouse, je ne manque jamais de demander si elle se fait appeler ambassadrice. Eh bien, depuis 2 ans, c'est fini. Dernièrement, l'épouse de l'ambassadeur de Dakar m'a dit « Non, monsieur, l'ambassadeur, c'est mon mari. Moi, je fais autre chose. »
Signifier. Soir et matin, la nuit, tous affirment qu'elle signifie. Un jour, pour éviter, elle se fit feuille entre des souffles, mais s'offrir au vent même fut vain. Elle signifiait. On lui postait des questions. Quels sont vos buts ? Torture. Nul non-but n'est admis. Pour s'apaiser, elle s'avale. D'autres fois, elle convoque des cannibales, mais leur appétit rate. Ça continue. Elle s'essaie sans ficelle, ombelle au ciel, tige en voltige, mais on lui signifie qu'elle est une fée, qu'une fée parle, donc signifie qu'elle ne peut en être autrement, ceci jusqu'à la fin, et que la fin manque. Puisque se taire est vain, elle dégorge sans retenue. Ce poème, Yves Le Pestipon, est extrait d'un recueil qui s'appelle « Traits d'elle », « Traits T-R-A-I-T-S » d'elle, D'E2LE, publié en Haute-Garonne par les éditions N et B. Et c'est un livre très étrange, un attrape-personne, écrivez-vous, et qui se lit comme une énigme têtue et entêtante. Et on a l'impression que vous faites un sort aux mots, Yves Le Pestipon, pour n'en retenir que les sortilèges en définitive.
Alors, peut-être pas les sortilèges, et surtout peut-être pas pour n'en retenir que. L'idée peut-être, c'est... elle est indiquée dans une sorte de petite préface qui est avant, que je lis en deux mots. Si du moins ces mots, pour ce livre, pouvaient passer pour des planctons, pas pour des termes, pareille hypothèse, le livre en succès, on ferait une cible d'impôt. L'idée, c'est peut-être d'essayer d'utiliser les mots, effectivement, autrement qu'on les emploie dans le langage de la communication, mais en quelque sorte en les utilisant comme s'ils étaient du plancton, c'est-à-dire effectivement ces petits animaux très nombreux qui flottent à l'intérieur de l'eau, dans la mer, et qui vont en tous sens. Et donc à ce moment-là, les mots, par une sorte de grand jeu de série de mots, se mettent à vivre, ce qui a des significations, on va dire, un peu éthiques, politiques et magiques, et peut-être des sortilèges, mais qui, au lieu de réduire le mot à quelque chose, en quelque sorte, essaie de le déployer en tous sens. Par exemple, dans le titre, trait d'elle, qu'il faut peut-être effectivement orthographier avec T-R-A-I-T-S, joue sur le trait impossible dans le dessin, joue sur la flèche qu'on envoie, joue évidemment sur trait T-R-E-S, et joue sur le fait que le portrait d'elle est impossible, et donc il ne reste que le trait, ou l'accumulation des traits, dans lequel on peut, même si on veut, entendre « tire ta langue ».
Mais ce recueil fait suite à un autre publié voilà plus d'un lustre, hein, en 1992, qui s'intitulait Il, I-L, et où je vois 3 moments avec les mots. Et je lis juste le début et la fin de ces 3 moments avec les mots de ce poème, Yves Le Pestipon. Pour le grand nettoyage, il prenait les mots, les passait sur les choses et épongeait ce qu'il pouvait. Il frottait avidement. Un homme si absorbant, beaucoup de dames l'auraient épousé. La fin, d'autres fois encore, presque toujours, il se trempait dans les mots, tout entier, sans rien qui émergeât. Il les laissait pénétrer sous sa peau, dans ses veines, il les écoutait. Et c'est un peu facile comme question, Yves Le Pestipon, mais il y a une part d'autobiographie, non ?
Ah oui, c'est-à-dire qu'il me semble que quelqu'un qui s'intéresse au moi, c'est mon cas, à la fois en tant que professeur de littérature et comme quelqu'un qui essaie un petit peu d'écrire, c'est quelqu'un qui se met à l'écoute des mots. Et effectivement, les mots sont comme une sorte, alors ici non pas comme des planctons, mais comme une sorte de liquide dans lequel on se plonge et on écoute effectivement. Et peut-être, pour moi, la littérature, c'est un travail d'écoute de la langue, effectivement, pour commencer, avant de se mettre elle-même sur la langue. Et donc effectivement, il y a plusieurs moments avec les mots, tout en sachant bien, je crois que je l'avais mis à la fin peut-être du il, que le dernier mot ment, et alors à ce moment-là, le mot ment, on peut jouer sur le mensonge du mot, l'ultime mot qui ment, l'ultime mot du cadavre, enfin, ou du pré-cadavre qui ment, et puis cependant, c'est un mot qui vit en même temps. Voilà. Et donc, il y a des éléments d'autobiographie, puisque dans il, qui était finalement le premier livre de ce point de vue-là, il y avait quelque chose comme, moi je m'appelle Yves Le Pestipon, I-L, d'accord, et puis en même temps il y a le fait que c'est aussi tout autre chose, puis qu'il s'agit d'un personnage qui est un pronom qui essaie de ne pas être, et cependant il ne peut pas s'empêcher d'être tout en étant un pronom, c'est-à-dire quelque chose qui se met à la place de quelque chose qui n'est pas tout à fait, qui est un mot. Un pronom, c'est une chose à la place d'une chose en quelque sorte, et voilà. Alors donc c'est un livre à certains égards anti-autobiographique, c'est-à-dire au lieu de dire « je suis ceci ou cela », il y a « il » qui dit quelque chose, enfin « il » qui fait quelque chose, ou plutôt qui faisait quelque chose, et la question qui se pose une fois qu'on a essayé de travailler un petit peu sur « il », c'est de se dire, ce qui est beaucoup plus difficile quand on est cependant « je » masculin, mais alors, qu'en est-il d'elle ? Et comme « elle » me paraît plus problématique que « il », on n'en donne que les traits, traits d'elle.
Mais alors, je voudrais entamer une sorte de dialogue entre vos deux œuvres. Je vais lire dans « Il » un poème qui s'appelle « Amour ». Et vous, vous allez répondre avec le 15e texte de « Trédel ». Il l'avait rencontrée au bord d'une rivière. Elle l'avait rencontrée sur un lit. Il lui dit aussitôt « Que vous êtes belle ». Elle lui dit sans hésiter qu'elle avait besoin d'un réfrigérateur. « Je meurs d'amour pour vous », ajouta-t-il. Elle ne voulut surtout pas admettre qu'on pût rien conserver sans congélateur. « Mon amour est éternel », disait-il. « À moins 30 degrés surtout », disait-elle. « Vous avez un cœur de roc », disait-il. « Puisse-t-il être solide », disait-elle. Il se jeta dans la rivière où il se noya. Elle regarda mélancoliquement les plus belles pages du catalogue.
Alors dans Trédel, le poème 15 est ceci. « Quand elle rumine un homme... » C'est plus d'un mauvais quart d'heure. En ces cas, pour paysage, un chemin de fer quasi désaffecté lui suffit. Son regard s'ouvre au calme des prairies riches en mouches. L'homme est descendu, remonté, replongé encore. Des jus le trempent, la salive le mine, le voilà réduit, réduit, tout avachi entre les molaires. Et sans qu'elle y pense...
Alors, je ne sais pas, en même temps, vous disiez que vous êtes professeur à Toulouse, vous nous parlez en duplex de Toulouse. On pourrait peut-être, sinon, faire une explication de texte de soi-même, mais vous pourriez quand même nous parler de cette cohabitation ou de cette coexistence difficile entre il et elle.
Ah oui, alors, c'est la question de l'amour, hein, à laquelle d'un côté, bon, j'ai bien envie enfin, de croire, et même en tant que chrétien, je crois profondément, mais en même temps j'observe l'extrême difficulté et l'extrême violence des rapports entre il et elle, tant dans le langage que dans le réel. Enfin, il faut entendre elle dedans. Et alors effectivement, d'une certaine manière, elle rumine un homme, et on voit assez bien, simplement observer autour de soi, comment les dames, qui ne sont pas nécessairement elles, mais qui ont quelques rapports avec elles, ruminent très souvent des hommes, et parfois les détruisent, et comment en même temps, effectivement, le « il » qui est en face accueille des dames, parle de réfrigérateur, etc. Et, disons, une chose d'expérience autobiographique, puisque vous m'avez posé cette question-là, il m'a frappé quand j'étais un peu plus jeune, je croyais que les amoureux se disaient entre eux des choses extrêmement sublimes constamment. Or, quand j'écoutais un petit peu leurs propos, j'entendais parler de chambre à coucher, de réfrigérateur, de projets de vacances ici ou là, et donc c'est un petit peu sur ça que ça apporte, sur le décalé entre, disons, une certaine idéologie de l'amour romantique, dans le plus mauvais sens du terme romantique, et puis d'une certaine manière le réel. Et il me semble que, disons, l'effort de la littérature, et en particulier de la poésie, doit être d'être du côté d'une lucidité extrême du réel. Or, effectivement, les rapports de couple, enfin on les voit tous les jours, sont très durs.
Alors, à la fois lucidité extrême, et en même temps, quelque chose d'assez fluide et énigmatique, et en particulier des jeux de mots qui sont souvent induits ou en creux. Vous refusez le jeu de mots pour le jeu de mots, le calembour pour le calembour. Et j'aurais voulu vous faire lire le deuxième poème qui s'appelle Le Contraire.
Le Contraire. Le Contraire. D'aucuns veulent la traire, mais elle est le contraire. C'est son charme. Qu'on la renverse, culbute, trimballe, elle rend le cul de plus d'un crâne à son état de nébuleuse. On n'y comprend guère, mais on y est plutôt fou qu'aveugle les jours où vole son sourire. Ici, elle est ailleurs dans une nuit où il fait blanc. Elle taille les silences qu'elle recolle avec du ciel. Elle assassine les essaims et tend les siens. Elle ouvre son cœur à la fermeture des chasses. Alors, c'était une tentative effectivement sur le contraire, sur le mot contraire, qu'on déploie dans sa, un peu la manière dont faisait un chef de gare qui s'appelle Brissé, qui était aussi linguiste, le contraire, traire le con, etc. Et donc, on peut faire entendre les mots dans tous les sens. Mais sur cette question du jeu de mots et disons du calembour, il y a parfois, on va dire, ce genre de texte, et parfois on le dit aussi de l'Oulipo ou de gens de ce genre, ils sont entièrement dans le calembour, dans le jeu de mots. Or, c'est un peu une autre idée. La Fontaine, le fabuliste, dit quelque part que Dieu ne créa que pour les sots, les méchants diseurs de bons mots. Parce qu'il y a effectivement d'un côté le jeu de mots qui étrangle, qui sert à faire prendre le pouvoir, et d'autre côté, on va dire, l'espèce de grand jeu avec les mots, dans la langue même, pour essayer de déployer des sens multiples, on va dire presque comme une sorte de pentecôte un peu du langage. Et quant à moi, c'est ce que j'ai plutôt envie de faire, c'est-à-dire non pas des jeux de mots qui étranglent, qui permettent de prendre le pouvoir, type « qu'on va tuer de poil », mais au contraire, une espèce d'aventure des mots, où peut-être à la manière de Mallarmé, les mots s'appellent les uns par les autres, à la fois dans leurs racines, dans leur sens, dans leur son, et créer une sorte de rivière de signification un peu en tous sens. Ainsi, bon, elle, par exemple, le mot elle lui-même, on peut à la fois le décrire, si on l'écrit en petit, comme quelque chose de rond, puis qui se grandit avec les deux ailes qui s'envolent, ou les deux voiles, et puis qui revient sur lui-même. On peut faire un poème entier, enfin, je vais essayer de le faire uniquement sur la description du pronom elle, mais évidemment, dans elle, il y a l'aile de l'oiseau, il y a l'île qui se renverse, il y a aussi le fait que c'est un palindrome parfait, et donc il y a quelque chose d'intéressant dans ce côté palindromique, du retour, voilà. Et donc, le travail sur le mot, en fait, libère à ce moment-là, me semble-t-il. Et, enfin, j'aime beaucoup la cabale de ce point de vue-là.
Eh bien, ces courtes minutes suffisaient à nous convaincre, Yves Le Pestipon, que vous êtes un excellent client pour Tire ta langue. Je rappelle, et peut-être vous demanderai-je de lire un dernier extrait, je rappelle que vous nous parliez de Trait d'aile, publié aux éditions N et B en Haute-Garonne. Et j'aurais voulu terminer cet entretien par une lecture que vous nous feriez du poème numéro 63, Femme varie.
Femme varie. À l'occasion, elle souhaite être un objet et l'est. Des gens en font des cales, des bénitiers, la fore, la grignote. Ils l'emplissent de cendres, de chaussettes, de cadavres ou de jus. Ils la curent, ils l'octroient, ils franchissent à coups d'aile leur peur. D'autres jours, le monde est son couteau. Elle attrape la falaise, les oiseaux, le matin, et poignarde avec. Elle cisaille d'étoiles les promesses. Elle peut aussi devenir un harpon ou le ciel, balai né de nuages. D'autres jours, c'est le sujet.
C'était donc le sujet. Merci beaucoup, Yves Le Pestipon.
C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, aujourd'hui centrée sur le documentaire de Simone Dweck, Au féminin, avec Benoît Groult, Nicole Cholevka, Bernard Cerchilini et la voix d'Evelyne Guimara. Prise de son Sarah Simoni, Philippe Bredin, mixage Frédéric Changenet, réalisation Françoise Camara.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 mars 2001. Vous pouvez la retrouver ou la podcaster sur franceculture.fr à la page des nuits.